série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
L'auteur et académicien Dany Laferrière a écrit « On peut quitter son enfance, mais notre enfance ne nous quitte pas ». On peut dire la même chose des voix chantées de l'enfance. Peu importe notre âge, il suffit de quelques notes pour remonter le temps. La berceuse, la comptine, la chorale de l'école. Comme notre voix parlée, notre voix chantée est modelée par notre cercle familial et notre milieu social. Qu'elle soit belle ou pas, c'est d'abord par imitation puis par réaction que chacun finit par trouver sa voix, sa tonalité, son timbre. Les voix chantées de son enfance béninoise. Angélique Kidjo.
La voix chantée pour moi, quand j'étais enfant, c'était une constante. Il n'y avait pas de jour sans. Il n'y avait pas de jour sans chanson. Il y a toujours quelqu'un qui met de la musique, quelqu'un qui chante. Ma mère, des fois, en faisant manger, elle chante. Mon père, quand il est là, soit il a un livre dans les mains, soit il a un banjo, et il joue. Et il chante. Comme mes parents, mon père me l'a rappelé, parce que moi, je ne m'en souvenais pas, il m'a dit que j'ai chanté avant de parler. Et que j'ai commencé à parler qu'à l'âge de 3 ans. Et qu'ils s'inquiétaient, ils ont vu des médecins. Les médecins ont dit non, il n'y a rien qui va mal, elle va finir par parler. Et le jour où j'ai commencé à parler, ils ont dit mais purée, on aurait dû te laisser chanter parce que tu nous saoules.
Ça ressemble à quoi? Vous avez encore un air en tête?
Ouh, il y en a tellement. C'est tellement beau que je...
Il
y en a plein.
Puis, il y a Henri Salvador que votre papa chantait aussi.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux.
La chanteuse Lara Fabian.
Je suis toute petite, je n'en ai pas le souvenir, mais ma mère me rappelle, enfin très tôt, ma mère me raconte que j'ai 18 mois et que je chantonne des choses très précises, 2 ans, 3 ans, que le chant était précédé en fait ma faculté d'expression. Mais le moment où moi j'en ai un souvenir et où je réalise que c'est quelque chose qui est en moi, voilà, qui n'est pas forcément le fruit d'une réflexion, mais qui est en moi, c'est quand j'ai 8 ans et que je chante un extrait de Verdi, de La Traviata, et que ma grand-mère se met à pleurer. Et là, je me dis, tiens, il se passe quelque chose qui est infiniment plus grand que moi, que ma compréhension, et je me rends compte que je peux en fait me connecter à cet être que j'aimais plus que tout. Quand on est petit, enfin moi j'avais une grand-maman très tendre, très belle et très aimante. Et donc, c'est au moment où le sens de la voix crée une émotion. Là, je me dis, ok, j'ai quelque chose.
La place de la chanson dans la famille de Claude Dubois.
J'étais, moi, dans un milieu... Une famille, quand je dis famille, je parle pas seulement là, de mon noyau là, personnel, mon père, ma mère, mes frères, moi, j'ai pas eu de sœur, en tout cas. Mais je parle aussi de mes cousins, mes cousines, les amis de la famille. Tout le monde chantait. C'était parfois affreux, mais ça pouvait être aussi assez hallucinant. Et le fait que tout le monde chantait, j'ai envie de dire, j'ai appris à chanter avant de parler. À les voir chanter autour de moi tout le temps, j'ai cru, je pense très petit, que c'était le mode de communication. Et donc, ça m'a comme amené à regarder la chanson comme un événement absolument ordinaire et populaire. C'était le bien-être, ou du moins le malaise de tout le monde. C'était vraiment ça. Et c'est vrai qu'il y en avait parfois qui chantaient qu'on aurait payé pour qu'ils arrêtent, mais ça restait quand même, on n'avait pas ce jugement-là. Tout le monde s'exprimait à travers la chanson.
On aura toujours une maman. On n'a rien qu'une maman. Grosse comme un éléphant ou petite comme un cure-dent. Qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit propre, qu'elle soit sale, pourvu que c'est la nôtre. On l'aime celle principale. Ma maman, ma maman, ma maman, ma maman. On aura toujours un papa. On n'a rien qu'un papa. Barbu jusqu'au talon, ou peau de fesses au menton. Qu'il soit fort, qu'il soit mou, qu'il boive ou pas du tout. Pourvu que c'est notre papa, ça reste notre papa. Papa, 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 papa. On aura toujours belle famille. On n'a rien qu'une famille. Qui chicane, qui se bataille, qui se tête, puis qui s'embrasse. Qu'on soit nombreux ou peu, qu'on soit riche ou bien pauvre. Pourvu qu'il y en ait des cons. On s'aimera toujours, ma maman, mon papa, mes petits frères, mes petites sœurs, soin, soin.
C'est très tôt, en imitant les plus grands, que Patrick Bruel découvre sa voix.
C'est vraiment une passion. J'ai la passion de chanter. J'ai toujours chanté. Je chante depuis que je suis tout petit. Et je me suis beaucoup identifié aux artistes, aux chanteurs. J'ai eu la chance d'avoir une maman qui avait des goûts très éclectiques et aimait les belles choses, les beaux artistes. J'ai grandi en dehors de la musique classique, qui a été très, très importante pour moi. Mais en dehors de la musique classique, j'ai grandi avec Brel, avec Barbara, avec Brassens, avec Ferré, avec Ferrat, avec Reggiani. C'est surprenant et à la fois touchant de voir un gamin de 5 ans. J'avais 5 ans quand ma mère a acheté Amsterdam, le single de Brel. Et j'avais 5 ans quand je chantais, je m'époumonais en chantant la chanson devant la glace. Va savoir pourquoi un enfant de 5 ans est plus touché par Amsterdam que par des chansons pour enfants. Ça a été un exutoire formidable. J'ai compris vite que ça allait être un moyen d'expression, qu'elle est comptée pour moi.
Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bières et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors
le geste grave. Alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Un souvenir d'enfance en Gaspésie. Isabelle Boulay.
La première fois que j'ai chanté dans ma vie, j'avais 2 ans et demi. Et mon père, quand il fermait le restaurant le soir, il tamisait les lumières. Tout était jaune, tout était tamisé. Puis de temps en temps, il recevait en privé ses amis. Et il y avait toutes sortes de scènes qui se jouaient là. C'était comme... c'était un théâtre humain à longueur de journée. Mais ce soir-là, en fait, on est tous les deux, mon père et moi, et ça cogne dans la porte du restaurant des grands coups, un grand vacarme. Et mon père va répondre, puis c'est un de ses amis qui rentre dans le restaurant, qui est un homme que je connaissais, puis que je côtoyais depuis très longtemps, puis qui était un homme qui avait beaucoup d'affection pour moi. C'était un vieux garçon, et il était sourd et muet. Moi, j'avais l'habitude de l'entendre s'exprimer avec des sons, mais là, ce soir-là, il rentre, puis il râlait, et il y avait des sons qui sortaient de lui comme un animal blessé. C'était comme vraiment... Puis j'ai eu peur. J'ai eu peur de cet homme-là qui était tellement affectueux à mon égard puis qui faisait presque partie de notre famille. Et là, je me souviens, je saute dans les bras de mon père puis là, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il me dit, il pleure parce qu'il y a une peine d'amour. Et là, j'ai comme eu un premier contact avec un être humain qui souffre et qui pleure parce que c'était primitif ce que j'entendais. Puis là, mon père me dit, chante-lui une chanson, ça va lui faire du bien. Mais là, je dis, il va pas m'entendre. Et il me dit, non, mais il va le sentir. Et là, je me suis mis à chanter, puis il a relevé la tête, puis il a séché ses larmes, il continuait de pleurer, mais... Ça y avait fait du bien. Puis je me suis rendu compte que je continue de chanter pour cette raison-là. Puis après, quand je me suis mis à faire de la chanson country, puis chanter dans les bars, ce que je voyais souvent devant moi, c'était des gens isolés, c'était des gens qui avaient la tête dans leurs mains à côté de sa table. Puis là, à un moment donné, tu sais, il relevait la tête. Mais moi, je pourrais chanter pendant des heures pour consoler les gens. Tu sais, ça m'a beaucoup consolé aussi.
Ma vie est un long chemin sans fin. Je ne sais plus très bien où je m'en vais. Je cherche dans les faubourgs et les villes. C'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mais mille après mille, je suis triste. Savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche sans jamais rien trouver. Je vois ton visage qui me hante. Je me demande pourquoi je t'ai quitté.
Maria Callas, Édith Piaf, Nina Simone, Charles Aznavour, Céline Dion, Amy Winehouse, la liste est longue des grandes voix qui ont vu le jour dans des milieux modestes ou défavorisés. Et si la pauvreté était un terreau fertile à l'éclosion de grandes voix, l'adversité une étonnante sculptrice de voix, et le chant une manière toute naturelle de combler le manque. Le docteur Jean Habitbol.
Bien sûr, c'était une façon d'exprimer cette souffrance intérieure, presque d'exclusion des autres dans la voix parlée. Je parle, mais on ne m'entend pas. Je suis là, mais je suis là, d'accord, mais parmi d'autres. Comment je vais m'exprimer? Et elles se mettent à chanter toutes seules. Elles ont besoin de personne. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette question. J'avais pas pensé, je suis franc avec vous. Pour m'exprimer, je dois faire chanter et faire danser ma voix. Mais en parlant, on ne me voit pas. Mais en chantant, puisque je chante, on va m'assimiler à quelque chose qui danse, à quelque chose qui bouge, d'une façon harmonieuse. Et on va m'aimer parce que je chante, donc, même si c'est un peu triste, les gens vont avoir une empathie obligatoire, parce qu'ils vont, je vais faire appel, et ils ne le savent pas, mais je vous explique la connotation scientifique. La voix parlée, c'est le cerveau gauche. Donc c'est un cerveau où l'émotion est là, mais l'analyse est là. La voix chantée, c'est le cerveau droit, un peu de cerveau gauche. Et le cerveau droit, c'est le cerveau de l'émotion. Donc comme je chante, ce n'est qu'une voix émotionnelle qui va prendre le dessus sur ma voix de la raison. Et au moment où je vais chanter, même si je chante dans le blues, par exemple, quand on écoute Aretha Franklin, quand on écoute d'autres, Ray Charles, quand on écoute tous ces gens-là, waouh, Ray Charles, qui vivait comment, je veux dire. C'est des gens incroyables. Et venant de ce milieu très dur, très pauvre, on ne m'écoute pas, mais moi, j'ai quelque chose. J'ai une émotion qu'il faut que je fasse sortir. Donc, oui, c'est cette richesse extraordinaire émotionnelle de ces chanteurs qui d'abord avec eux-mêmes veulent être en harmonie et puis faire connaître cela parce qu'on en revient donner à l'autre ce que eux commencent à comprendre de beauté en elle. Et cette souffrance je l'aime, et alors je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien, bien sûr je ne peux pas regretter puisque ma vie c'est moi et moi c'est mes chansons.
She said, my son, I beg of you, I have a wish that must come true. The last thing you can do for your mama, please promise me that you will stay and take my place while I'm away and give the children love each day. I had to cry. What could I say? How hard I tried to find a word. I prayed that she would not see me cry. So much to say that should be heard, but only time to say goodbye to Mama.
Édith Piaf est la parfaite incarnation de ces grandes voix nées dans la misère, de ces voix timbrées à la dure par la vie des quartiers populaires, mais des voix dignes à qui on n'a jamais fait baisser la tête. Le journaliste et biographe Jacques Pessis.
Devant le 72 au boulevard de Belleville à Paris, il y a une plaque indiquant qu'Édith Giovanna Gassion est née là, sur le trottoir, à 5 heures du matin. Ça, c'est la légende. Mais en fait, en fouillant un peu, il y a un hôpital, l'hôpital Tonon, à 200 mètres de là, où on trouve à 10h30 la naissance d'Édith Giovanna Gassion. Effectivement, sa mère a failli accoucher dans la rue, mais elle a eu le temps d'aller à l'hôpital. Mi Piaf adorait les légendes. Elle avait un sens du marketing avant la lettre. En fait, elle n'a pas inventé. Elle l'a lu un jour dans un journal qu'elle était née dans la rue. Elle a dit, c'est très bien, je dirai ça toute ma vie.
Édith Piaf à l'émission La Joie de Vivre, animée par Henri Spad et Jacqueline Joubert en 1954.
Eh bien, mon Dieu, je suis partie avec mon père. Je suis partie avec mon père dans un cirque.
Oui.
Oui, je faisais des tournées avec mon père. Enfin, mon père faisait des tournées dans un cirque. Il était acrobate.
Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans le cirque? Vous,
bah,
vous alliez jouer avec les lions, non?
Oui,
jouer avec les lions.
Ouais.
Mais oui, c'est-à-dire que j'avais interdiction d'aller à la ménagerie.
Oui, alors vous y alliez.
Évidemment. Alors un jour, avec une petite camarade, nous voulions jouer à cache-cache. Alors moi, j'ai pensé qu'une bonne chose, c'était de me cacher près des lions, vous comprenez, dans la double cage. Alors j'ai été me cacher entre les deux cages. Et papa, enfin, le dompteur, tout le monde était affolé. On me disait, reviens, tout doucement, évidemment. Et moi, j'avais tellement peur de prendre une trempe. Je disais à papa, je veux bien revenir, mais jure-moi sur la tête de ta grand-mère que tu ne me battras pas.
Et puis il y avait le lion derrière.
Ah, le lion. Alors je jouais avec le lion. Alors il m'a juré sur la tête de sa grand-mère, mais il n'a pas tenu son serment.
Oh. Non. Il a bien fait, il a bien fait.
Bah, oui.
Parce que tout de même... Mais vous êtes partie de ce cirque un jour.
Ah oui, je suis partie, j'ai quitté mon père, j'avais 10 ans la première fois. J'avais déjà l'esprit de liberté,
ouais.
Comme une grande. Et c'était assez difficile et j'avais tout prévu parce que la police était alertée. Et je m'étais dit, si je ne change pas de robe, papa va donner le signalement comme je suis. Alors j'ai changé de robe et puis dans le train, tout le monde s'étonnait de voir une petite fille faire ce voyage toute seule. Ouais. Alors j'ai dit que j'étais battue par mes parents, que je m'enfuyais, qu'il fallait que j'aille revoir ma grand-mère, parce que j'avais une belle-mère. Enfin, je faisais pleurer tout le monde dans le train.
Une chanson réaliste, là.
Hein? Ça commençait.
C'était une chanson réaliste, ça.
Tant et si bien que j'avais donné mon billet à une dame qui était très respectable, et quand le contrôleur venait, on croyait que j'étais avec cette dame. J'avais tout combiné, vous comprenez?
Oh là là! C'était très fort, ça.
Et je suis arrivée comme ça à Bernay dans le...
Refaissée après.
Ah oui?
Ouais. Alors là, oui.
C'est à 15 ans qu'Edith Piaf décide de voler de ses propres ailes.
Dans la rue, je chantais quand je voulais, vous comprenez?
Oui, c'est ça, avec le soleil.
Ouais. Avec le soleil et puis les agents.
Et puis alors, je choisissais mes rues, vous comprenez? Il y avait des rues qui ne me plaisaient pas, par exemple. Je ne chantais pas dedans.
Ah bon? Décor sur mesure,
mais
si
oui, je choisissais mon décor.
Mais les rues sont commissariat de police.
Oui, mais d'ailleurs... Ah oui, parce que c'est interdit. Mais j'ai d'ailleurs deux histoires d'agents de police que je trouve très touchantes. Je chantais une fois dans la rue et il y a un agent... Je ne peux pas vous dire comment je les appelais à ce moment-là.
Non,
mais enfin,
c'est pas la peine.
Non.
Mais il s'arrête et il me dit, mais enfin, tu ne sais pas que c'est interdit de chanter dans la rue? Ben, je lui dis, si. Ben, il me dit, mais alors, mais moi, je vais t'obliger de t'emballer. Enfin, il me dit, c'est effrayant. Il me dit, écoute, sois gentil. Il y a des rues là-bas, c'est pas mon secteur, et elles sont très bien. Il me dit...
Et alors,
il y en a un autre aussi qui est arrivé scandalisé aussi parce que je chantais. Et il me dit, mais c'est défendu de chanter dans la rue. Je le sais bien, vous me dites tous la même chose. Il se répétait. Et alors, il me dit, écoute, tu vas faire un truc. Est-ce que tu connais J'ai le cafard? Alors, je lui dis oui. Il me dit, je vais me mettre au coin de la rue. Tu la chantes et quand t'as fini, je te fais comme ça et je m'en vais.
Oh, c'est charmant.
Alors, je vais chanter J'ai le cafard. Vous pouvez pas le contrarier d'abord.
Et tout de suite, vous avez eu la chance de chanter dans un cabaret où des gens vous ont applaudi. Tout de suite, il y avait Maurice Chevalier le premier soir.
Ah oui, il y avait, je dois dire, le Tout Paris. Le Tout Paris, à l'époque, pour moi, ça ne représentait pas grand-chose parce que je ne connaissais pas le Tout Paris. Mais enfin, le Tout Paris était là. Il y avait Chevalier, il y avait Mistinguette, ce qu'on appelait à l'époque le Tout Paris.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 déjà thème de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cet air qui bat comme un cœur.
Céline Dion n'a pas chanté dans les rues, ni joué dans la cage d'un lion. Mais son enfance à Charlemagne, en banlieue de Montréal, s'est aussi déroulée dans un milieu très modeste. En 1995, pour la parution de l'album 2, Céline Dion est invitée à l'émission Pollen. Elle est accompagnée de Jean-Jacques Goldman. Au micro de Jean-Louis Foulquier, c'est avec candeur, fierté et une voix encore juvénile que Céline parle de sa famille.
Céline Dion, vous disiez, moi je suis chanteuse, ce que j'aime avant tout c'est chanter tous les styles, tous les genres, etc. Et ça, ça vous tient depuis que vous êtes toute petite, parce que bien que vous soyez encore jeune, vous avez déjà une longue carrière derrière vous.
C'est vrai, mais je pense que ça vient du fait d'avoir 13 frères et sœurs, puis d'avoir entendu toutes sortes de musiques, parce que mes 13 frères et sœurs jouent des instruments de musique, ils chantent tous, mais ils ont tout un style bien particulier, différent. Alors, il y en avait une qui chantait du Janis Joplin, l'autre, elle chantait du Ginette Renault, l'autre, elle chantait du... mes frères chantaient des Beatles. Il y avait vraiment des styles de musique différents. Moi, quand j'avais 5-6 ans, pendant que je mangeais mes patates pilées, j'écoutais ça. J'étais habituée d'entendre toutes sortes de musiques. Alors, c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, j'aime la musique, point.
Et les patates pilées.
Puis les patates pilées. Ah non, mais moi, je pourrais vivre avec des patates pilées, du beurre puis du pain.
Les patates pilées, c'est peut-être de la purée.
Ah, excusez, oui.
C'était écœurant.
C'était écœurant, comment c'est bon avec ben du beurre. C'est une purée de pommes de terre, oui, c'est ça.
Voilà. Vous étiez dans une famille de musiciens ou c'était uniquement pour le plaisir, quoi?
C'était pour le plaisir, mais on était une famille de musiciens. Mes parents ont élevé 14 enfants, entourés d'instruments de musique partout. Et ma mère jouait du violon. Puis mon père de l'accordéon. Puis il faisait de la musique les fins de semaine pour aider un peu les fins de mois. Mais moi, tous mes frères et mes sœurs avaient des groupes.
Vous êtes toujours très, très attaché à votre famille. Hein. Vous avez vu une interview à la télévision au Canada où vous parliez de vos parents, etc.
Ma cabane au Canada.
Avec beaucoup d'émotions.
Ben écoutez, j'apprécie la vie que j'ai aujourd'hui, que j'ai eue. Je pense que c'est bien important, la base. Je pense que j'ai eu une bonne base. Et la base que je parle, c'est d'avoir une bonne famille. Je me rappelle, on n'avait pas une scène, on n'avait pas d'argent, puis on a eu... Pas d'argent, mais on n'a jamais été pauvres quand même. On a eu beaucoup d'amour, bien de l'attention, de l'affection. Moi, je sais pas comment ils ont fait, mes parents, pour élever 14 enfants comme ça. Mais j'apprécie ce que j'ai eu, puis je veux montrer à mes parents que je l'apprécie puis que je suis contente de ça. Alors, je suis près d'eux, je les aime, je suis fière d'eux autres, puis je suis encore le petit bébé de la famille, puis ça, j'aime ça.
Et eux sont fiers de votre réussite.
Bien, je pense que oui, parce que, vous savez, ils ont tous monté sur scène avant moi, ils ont tous chanté avant moi, ils ont rêvé à ça avant moi. Puis moi, je suis comme la plus chanceuse, si vous voulez, de la famille, parce que, bon, j'ai commencé jeune, j'ai rencontré le bon monde au bon moment avec les bonnes tunes, avec les... Je crois beaucoup au destin. Et quand je suis sur scène, pas trop loin de Montréal, ils sont là dans la salle, puis ils me donnent beaucoup de courage, puis je chante un peu pour eux autres aussi. Puis c'est comme si je le fais pour moi, mais je le fais un peu pour eux autres aussi.
Vous n'avez jamais imaginé faire autre chose que chanteuse?
Non.
Oui, c'est une question idiote, merci.
Non, c'est pas idiot, non, pas du tout. J'ai pris le micro pour la première fois. Mon premier show, j'avais 5 ans, au mariage de mon frère Michel. Puis mes frères m'accompagnaient, puis j'avais chanté pour la première fois en public. puis j'ai jamais pensé à faire autre chose.
C'était quoi cette première chanson, vous vous en souvenez?
Ouais, à 5 ans, c'était une chanson de France Castel, une chanteuse qui était bien connue. Bon, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer dans le studio. Allô? Une chanteuse bien connue au Québec. C'était « Donnez-moi un peu de fil des aiguilles du coton. Il n'en faut pas plus pour réparer un cœur en pièces. » J'aimais ça. C'était léger, c'était cute, c'était le fun. Moi, j'aurais aimé mieux chanter « Baby back. » Mais genre à 5 ans, le monde n'aurait pas... Je pense qu'il aurait mal digéré ça, tu sais.
« Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les eaux d'étendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts. J'habite où tes yeux brillent, où ton sang coule des bras me serre.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi. J'irai où tu iras, qu'importe la place, qu'importe l'endroit.
Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers sous le vent. Le feu du soleil au visage et le bleu des océans. Je veux des chameaux, des mirages et des déserts.
Années 70, bien avant l'arrivée de Céline Dion, René Simard est l'enfant chéri des Québécois. Issu d'une famille modeste, lui aussi, René a tout juste 9 ans lorsque sa voix d'or fait craquer le cœur de la belle province. Le petit Simard, comme on l'appelle à l'époque, trône au sommet des palmarès et les ventes de ses disques au Québec seulement dépassent celles d'Elton John et des Rolling Stones dans l'ensemble du Canada. Les Canadiens anglais le surnomment alors le « Million Dollar Baby ».
La première fois que moi que j'ai pensé que j'avais une voix, c'est drôle parce qu'on partait de Chicoutimi pour aller à l'île d'Orléans. Et mon père, on restait dans un deuxième étage. On était quand même 6 enfants. Nathalie est née là, à l'île d'Orléans. Puis là, on était 7 enfants dans un 5,5. Chambre des gars, chambre des filles, chambre à papa, à maman. Et puis en bas, il y avait les wallets. Et là, la première fois quand je suis arrivé dans cette maison-là, on est allé en bas, mon père et moi, il y avait M. Conrad Ouellet qui était là, qui plaçait ses bières dans le frigidaire. Puis mon père a dit, « Écoute, mon fils, il chante. » Fait que là, je me mets à chanter. Je pense que c'était l'oiseau. Puis là, je l'ai vu qu'il plaçait ses bières, puis là, il a arrêté. Il a arrêté de placer ses bières, puis il m'a regardé à travers ses lunettes à double foyer. Je m'en rappellerai tout le temps. Et c'est là que j'ai vu que, à quelque part, j'avais une voix.
À ce moment-là, pour toi, chanter, c'est quoi? C'est un jeu? C'est une libération? Une liberté?
C'est un jeu. Chanter, pour moi, jeune, petit, un enfant, il faut que ça reste un jeu. Et je vois des parents, des fois, qui me posent la question, là, j'aimerais ça que mon enfant réussisse dans ce métier-là. J'ai faites-le jouer, s'il vous plaît. Qui joue avec ses amis, qui joue au Nintendo, qui joue n'importe quoi. Mais faites-le jouer avant qu'il y ait une responsabilité, parce que ça reste toujours qu'il y a une petite pression quand t'es enfant sur tes épaules. Ou est-ce qu'il faut que t'exécutes certaines choses sur scène? Et là, il faut pas non plus que tu essuies des échecs jeunes parce que ça devient traumatisant psychologiquement.
Tu regardes à la fenêtre pleurant depuis ce matin, gardant l'espoir de voir chemin. Il est parti sans rien dire.
En 1974, au Festival international de la chanson de Tokyo, René Simard a 13 ans. Avec sa coupe de cheveux petit page, il semble tout droit sorti d'un manga japonais. C'est toutefois sa voix d'ange qui séduit le jury et lui permet de remporter le premier prix d'interprétation avec la chanson Midori Hiruyane, Ne pleure pas. C'est des mains de Frank Sinatra en personne que René reçoit son trophée. The Voice lui dit alors « Tu as très bien chanté ». Et il ajoute « Surtout, ne grandis pas. Reste exactement tel que tu es. »
First, let me tell you that you sang very well. And don't grow up. Just stay just the way you are.
Malgré sa carrière brillante et parfois tumultueuse, René Simard n'a jamais perdu sa simplicité. Ni oublier ses origines.
Tu veux surtout t'en sortir. Parce que chez nous, de toute façon, c'est pas que je me sentais en prison, on connaissait pas autre chose. Fait que ce qu'on vivait, c'était beau, c'était simple. Oui, on a mangé des patates fricassées. Pour les gens qui savent pas qu'est-ce que c'est, ben c'est un plat très qui vient du Québec. Et beaucoup de patates, beaucoup de sauce brune. Et ça, on a mangé plus souvent qu'à notre tour. Mais on était bien, on était ensemble et il y avait quand même de l'amour chez nous. Ben moi, j'étais tout petit, puis on me disait que ma famille était pauvre, mais je me disais, ben non, ils ont certainement des sous cachés à quelque part, puis ils veulent pas nous le dire. Ils veulent nous faire apprécier la vie. Mais en vieillissant, j'ai bien vu qu'on avait un problème. Parce qu'on est déménagé au moins 14 fois. Hein, t'sais, je veux dire, mon père n'était plus capable de payer le loyer, tout ça. Mais c'est ça, je pense que... Après ça, j'ai dit, oh mon Dieu, j'aimerais ça gagner ma vie. Et c'est là, quand j'ai commencé à avoir un peu de sous, j'ai acheté ma première maison à l'âge de 10 ans. Et la maison du capitaine Plante, qu'on appelait à l'île d'Orléans. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, wow. Là, j'ai dit, je pensais qu'eux autres allaient me faire une surprise, mais c'est moi qui leur ai fait une surprise. Puis si t'as recommencé, je recommencerais le même matin. Puis là, je voyais ma famille. C'était comme si on rentrait dans un château. Il n'y avait rien qui ressemblait à un château dans cette maison-là, mais c'était notre maison, c'était notre première maison. Et j'étais heureux, moi, de d'offrir ça à ma famille.
Je sens une véritable émotion, une fierté.
Oui, oui. Ben oui, c'est une fierté parce que c'est important de savoir d'où on vient. Hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça. C'est l'essentiel, c'est la fondation d'une vie.
Angélique Kidjo est la septième d'une famille de 10 enfants. Dès l'enfance, les arts, le chant et la scène font partie de son quotidien. La mère d'Angélique est alors comédienne et directrice d'une troupe de théâtre.
Maman répétait souvent la maison avec sa troupe de théâtre et il y avait un monde fou. Je ne sais pas comment ma maman elle a fait. 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Avoir une troupe de théâtre de 70 personnes, faire à manger... Mais Moi, j'élève un enfant, je trouve que c'est déjà beaucoup de boulot, mais elle, 10. Mais elle avait cette passion pour le théâtre. Donc, ma maman, je crois que c'était la dernière représentation qu'elle faisait. Donc, elle est venue jouer au Palais des Congrès, à Cotonou. Et il s'avère que la petite fille qui jouait le rôle de la petite princesse dans sa pièce avait le palu. Et moi, quand ma maman fait des répétitions ou quand la pièce joue, je suis toujours fascinée par les costumes qu'elle a fait. Les jupes des danseuses, la tenue du roi, la tenue de la reine, la tenue... Et j'étais tout le temps... Elle a bien fabriqué des masques. J'étais cette petite fille curieuse qui avait envie de rentrer dans tous les personnages. Je disais toujours à ma maman, mais pourquoi est-ce que je ne joue pas le rôle de la princesse? Elle me dit, parce que tu ne joues pas le rôle. Tu ne peux pas, je ne peux pas, je vais t'expliquer plus tard. Et ça, ça m'agace quand on me dit, je vais t'expliquer plus tard. Ça veut dire que la réponse, tu ne l'auras jamais si tu ne commences, continue pas à poser la question. Et ce jour-là, j'étais justement dans les costumes et je sens quelqu'un qui me chope par la cheville. Je me retourne, elle m'a dit, tu vas chanter maintenant? Je dis, mais non, moi, je ne chante pas, moi. J'ai dit oui, je dis non. Elle dit oui, je dis non, ça durait deux secondes. Elle m'a foutu le costume. Elle prend pas la main, elle dit, tu veux chanter? Tu n'arrêtes pas de m'embêter. Maintenant, c'est ton tour. Elle me pousse sur scène. Et là, je suis là. Je savais pas quoi faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était qu'un squelette. Mais je ne voyais personne, en fait. Ce qui m'a permis de chanter ce jour-là, c'est le spot qui était dans ma figure. Il n'y avait que ça qui suivait les gens dans leur truc. Il n'y avait pas d'autre lumière. Donc, moi, je suis arrivée. J'ai vu personne. J'ai dit, bon, les gens ne sont pas encore dans la salle. Donc, j'ai commencé à chanter ma chanson. J'ai chanté toute la chanson. Et je sors. Je finis de chanter. Je tourne, me retourne. Hop! Je sors de la scène. Et maman me regarde. Mais non, il faut attendre. Je dis, attends quoi? Pendant qu'elle me dit ça, la salle était... Les gens étaient debout en train d'applaudir. Et elle me dit, il faut aller chercher les applaudissements. Je dis, ah non, alors là... Je suis montée une fois, j'y vais pas deux fois. Non, mais rien à faire. Je ne veux pas rester ici, je me casse. Le lendemain, je me réveille, je dis à mon maman, c'était super hier, pas vrai? Regarde, me dit, toi qui n'as pas voulu aller retourner sur la scène, j'ai dit, mais maman, je voyais personne, c'est ça pour ça que j'ai chanté. Et après, je suis devenue accro à la scène.
Pour y mettre nous, comme pour bien des chanteurs issus de milieux défavorisés, sa voix a été une porte de salut. L'auteur, Kev Lambert.
Elle-même le dit, en fait. Elle-même parle de sa voix comme une sorte de locomotive qui lui a permis de s'arracher à son milieu d'origine, puis à la violence familiale, puis tout ça. Elle-même, elle en parle comme ça, de sa voix comme véhicule d'émancipation, en fait. Puis ce qui est beau, je trouve, souvent, c'est que dans l'art, puis dans l'art vocal en particulier, il y a toujours une sorte de musique secrète qui redouble la première. C'est-à-dire qu'il y a la chanson, mais il y a la petite musique en dessous qu'on n'entend pas, qui est écrite dans la langue des cicatrices. Puis je pense que moi, c'est cette langue-là qui nous parle, au fond. C'est cette langue-là qui est cachée à l'intérieur même de la chanson, puis qui parle une langue qu'on ne connaît pas, qui est la langue des blessures, mais qui s'adresse directement à nos blessures, justement.
Dans son autobiographie, Ginette Reno lève le voile sur son enfance et sur sa famille dysfonctionnelle. Elle se souvient notamment de cette nuit où, encore toute petite, elle est dans la chambre de ses parents.
Ils sont en train de faire l'amour, mon père puis ma mère. Puis mon père était ivre souvent, donc il est souvent sous. Et puis moi, je suis dans ma bassinette et puis je pleure pas. Supposément, je me réveille. Puis je joue avec mes mains, puis je chante. Et il va demander à ma mère, pourquoi elle fait ça, c'est quoi, là? Ben, elle dit, elle pleure pas. Elle se réveille, puis elle chante, puis elle joue avec ses mains. T'inquiète pas. Puis il a pris une oreiller, il me l'a mis sur la tête. Fait que quand ma mère a enlevé l'oreiller, j'étais un petit peu bleu. Mais ça, c'est pas celle-là que je voulais. Une des plus belles, c'est quand j'ai fait une fièvre scarlatine. J'étais 50 jours dans un hôpital et les soeurs m'attachaient. Ils me faisaient peur. Puis il y avait une femme, je sais pas, je la connais, je peux pas vous dire, j'ai l'impression que c'est sa faute si je chante aujourd'hui. Une infirmière qui m'enseignait trois chansons. Donc, je chantais une chanson de Robert Labrie qui s'appelait « Heureux comme un roi ». Puis, je chantais une autre chanson, je pense, une vieille. « Un monsieur attendait au café du palais ». C'est un français, un vieux français qui chantait ça. Puis, je chantais au clair de la lune, mais l'autre, au clair de la lune. La connaissez-vous? « Mon ami Pierrot, prête-moi ». C'est un autre air de « Au clair de la lune ».
Est-ce que vous vous rappelez de ce que ça vous procurait, chanter, à ce moment-là?
Premièrement, ça me procurait, des fois j'avais des sous, parce que j'allais dans des places, puis je disais qu'on était très, très pauvres chez nous, mais on l'était aussi. Je chantais, puis je quittais. Mais en cinquième année, je me rappelle, c'est la seule année où je suis arrivé première de classe toute l'année. Mais cette maîtresse-là, là, en cinquième année, elle m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans la vie? » J'ai dit « Moi, je veux devenir une grande chanteuse. » Fait qu'elle dit « Quand les enfants vont là en récréation, reste... » Chante-moi quelque chose. Puis dans ce temps-là, je connaissais les trottoirs de Raymond Lévesque. Fait que je commence à chanter, puis je roule mes airs, mais j'ai rien appris, là. Avez-vous remarqué, sur les trottoirs, les petits-enfants s'amusent? Puis là, je suis rendu, avez-vous remarqué, sur le trottoir, là, elle pleure. Fait que je fais, elle m'aime, je suis sûr qu'elle m'aimait. Mais au fond, j'ai réalisé bien des années plus tard que dans sa tête, elle se devait se dire comment elle va faire. Équipée comme elle est, pauvre dans un quartier, comment elle va faire pour devenir une grande chanteuse? Mais moi, c'est juste ça. Je voulais devenir une grande chanteuse.
Toi qui me quittes avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour.
Dubois adore le quartier populaire qu'il a vu grandir. Dans les années 50, le Red Light de Montréal bouillonne. Les maisons closes et les logis sur terre battue voisinent les cabarets à la mode pour la plus grande joie d'une faune avide d'émotions fortes.
Ce quartier-là va me nourrir considérablement. Dans mon enfance, j'ai des théâtres à proximité, j'ai des cinémas, j'ai une vie de nuit. Bon, mais même si je suis un enfant, je vais tricher des fois, puis je payerai pour, parce que je vais me faire, évidemment, apostropher, ça va être grave. Mais tout ça pour vous dire que je vis dans un milieu vivant. Oui, il y a la pauvreté, oui, il y a la misère, mais il y a aussi la culture. Et puis, on va vivre un peu comme des chats de gouttière. On va traverser des secteurs de la ville sur les toits et tout. Et donc, je vais voir les théâtres. Je vais les voir. Je vais trouver des entrées secrètes pour aller au cinéma. J'ai pas les moyens de payer. Et ça va être ça, mon enfance. C'est très actif.
Angélique Kidjo.
La pauvreté, c'est ce que ça vous apprend, c'est la dignité. La dignité que les autres prennent pour acquis et qui ne respectent pas. Quand on est pauvre, on respecte la dignité. Parce qu'à la fin de la journée, la seule chose qui te reste, c'est ta dignité. Et cette dignité s'exprime par la voix, par le parler et par le chant. Pour se sortir, se tirer du bas vers le haut, il faut chanter plus fort. Il faut travailler plus fort. Parce que du milieu dont tu viens, déjà, personne n'a envie de t'entendre. On n'attend rien de toi. Et c'est quand tu arrives, par ta voix, tu touches l'humanité de l'autre qui n'a pas envie de te voir, c'est là où tu deviens puissant. Parce que tu comptes à ce moment-là. Pas parce que tu es pauvre, mais parce que c'est l'ignorance de l'autre qui a voulu t'ignorer, qui a voulu t'effacer de l'histoire.
Pour Claude Dubois, ça ne fait aucun doute. Le quartier de son enfance a façonné sa voix. Une voix, comme un tremplin qui lui a permis de rêver à plus grand.
Je pense que le talent n'a pas de frontières et que l'amour du monde n'appartient pas qu'aux riches. Il appartient à tout le monde. Et que quelque part, quelle que soit notre source, la façon qu'on va émettre ce que nous sommes va éventuellement rejoindre un maximum de personnes. Mais il faut beaucoup de patience. Parce que quand on est dans la violence et qu'on est dans un environnement défavorable, où il n'y a pas beaucoup de soutien, puis il n'y a pas beaucoup d'admiration de soi et des autres, je veux dire, où est-ce qu'on est dans une solitude épouvantable. Tu sais, quand tu manges de la soupe au chou, comme entrée, comme plat principal, puis comme dessert, tu ne penses pas passer à la radio d'État. Donc, ça va me faire écrire, et absolument, j'ai souvenir encore, où je vais raconter mon monde, même mon monde dépourvu, qui était nourri d'une façon fabuleuse.
J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir, grandir par les années. C'est dans un vieux taudis que 10 ans de ma vie j'apprenais à mentir. Pourquoi vieillir? J'ai souvenir encore d'une vieille maison que l'on se partageait, chacun à sa façon. Un logement bien chauffé, on a si bien gelé. Les rats dans l'escalier prenaient leur déjeuner. J'ai souvenir encore de 4 jeunes garçons qui avaient grand plaisir à jouer les fanfarons. Les garçons de mon âge avaient pour voisinage Robineau, Duvigée, Putain de la Saint-Laurent. J'ai peu de souvenirs d'une vieille maison que l'on dut démolir, rongée par les saisons. Adieu rue Sanguinette, adieu mon coin vitré. Mais ce soir, je te laisse un peu de mes pensées.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. À la recherche, Marie-Christine Blais et Jean-Philippe Proux. Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau. Aux archives de la RTBF, Didier Scatman. Cette émission est signée Francis Legault.